Session d'introduction à la théologie par le Père Philippe. Conférence du 18 novembre 1989 sur le Christ.
Hier, j'ai essayé de vous montrer la place du mystère du Christ au point de vue de notre foi. Comme le sommet, l'achèvement de toute la révélation, et aussi, par le fait même, la place que doit tenir la théologie du Christ dans la réflexion théologique. Que c'est toujours cette réflexion théologique sur le mystère du Christ qui commande toute notre théologie. C'est, je crois, très important pour nous. J'allais dire, la valeur d'une théologie va tout de suite se trouver dans son regard sur Jésus, sur le Christ. C'est par là qu'on peut découvrir l'importance et la qualité d'une théologie, tout de suite. Aujourd'hui, c'est par rapport à Thomas d'Aquin, saisir dans l'œuvre de saint Thomas ce que représente sa théologie du Christ. C'est énorme, hein, comme sujet, surtout pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup saint Thomas. Alors, si vous voulez, je vais d'abord montrer la grande objection qu'on souligne, qu'on avait déjà souligné, je me souviens bien, c'était juste avant la guerre. On l'avait souligné de façon très forte. Et ça reste toujours un peu latent. Comment se fait-il que dans l'œuvre majeure de saint Thomas, la somme théologique, le mystère du Christ, apparaît en troisième lieu? Prima pars, première partie, on regarde le mystère de Dieu. Dieu en lui-même, dans son unité, dans sa trine, et puis la création. Dans la seconde partie, on regarde l'homme, image de Dieu, retournant vers Dieu. Et on montre là la brisure qui s'est faite par le péché, et que l'homme ne peut plus, par lui-même, retourner vers Dieu. Et que la grâce, ayant été rejetée, il faut donc qu'il y ait quelqu'un qui soit le sauveur. Et que c'est dans la troisième partie qu'on nous montre le mystère du sauveur, le mystère du Christ. Alors, tout de suite, l'objection, elle est nette et facile à comprendre. Si au point de vue de la foi n'est parfaite que lorsque nous adhérons au Christ, tant que nous n'adhérons pas au Christ comme Verbe incarné, comme celui qui est le Fils bien-aimé du Père et qui nous sauve par la croix, notre foi reste imparfaite. Une foi d'attente, une foi de l'Ancien Testament. Peut être vraiment une foi, une croyance surnaturelle, mais qui n'est pas parfaite. Si donc, c'est la foi dans le Christ et la théologie du Christ qui nous donne le sommet de toute la théologie, on devrait tout de suite commencer par le mystère du Christ. Et à partir du mystère du Christ, entrer dans le mystère de la très sainte Trinité. Jésus nous parle du Père. Le Père, c'est Dieu, c'est le Créateur. Et regarder par le fait même, dans cette lumière du Père, le don que Jésus nous fait de l'Esprit Saint. Regardez le mystère de Marie, le mystère de l'Église. Vous voyez, très facile à comprendre. Je dirais que c'est comme ça que nous vivons. Si on fait donc une théologie vivante, on doit commencer par le mystère de Jésus. Et ceci était enseigné à l'Institut catholique de Paris, dont j'ai eu les cours à cette époque-là. Et donc, saint Thomas ne nous donne pas une théologie chrétienne. Il nous donne bien une théologie, c'est sûr. C'est une théologie qu'il nous donne. Mais ce n'est pas une théologie chrétienne. Une théologie qui part de Dieu, qui regarde la création, qui regarde le retour de l'homme vers Dieu, et qui met en troisième lieu, presque en appendice, le mystère du Christ. Je crois qu'il faut bien saisir cette objection pour essayer d'entrer le plus qu'on peut dans la pensée de saint Thomas. Oui, c'est trop facile de dire saint Thomas, théologien du Moyen-Âge, fait cela. Ça n'explique rien du tout, ça. C'est une explication historique, et saint Thomas est un théologien, et en tant que théologien, en tant que croyant, il est au-dessus de l'histoire. Il est très conscient qu'il est à telle époque du développement de l'Église. Il est très conscient d'être un croyant. Et croyant dans le Christ Sauveur. Et donc il veut faire une théologie chrétienne. On dirait à saint Thomas, vous faites une théologie qui n'est pas chrétienne. Je crois que ça ferait bondir saint Thomas. On dirait à saint Thomas, vous êtes beaucoup trop philosophe et pas assez théologien, parce qu'au fond, c'est le reproche qu'on fait. Vous êtes beaucoup trop aristotélicien, ou vous êtes beaucoup trop néoplatonicien. Vous êtes plus philosophe que théologien. L'écriture, pour vous, n'est pas ce qui commande tout. Ce n'est pas un regard, vraiment, de théologie à partir de la révélation. C'est une réflexion très intelligente que vous faites, et ce n'est plus vraiment une théologie, une doctrine sacra. Il faut sentir, je crois, cette objection. Elle est réelle. Mais il faut se demander pourquoi saint Thomas fait cela. Alors on va essayer de comprendre pourquoi saint Thomas nous donne dans la somme théologique cet ordre. Et ce que ça représente exactement dans la pensée de saint Thomas. Saint Thomas nous dit que la théologie est une sagesse. Si la théologie est une sagesse, on sait cette parole que ne cesse de répéter saint Thomas, le propre du sage est d'ordonner. Donc la question de l'ordre pour saint Thomas est quelque chose de primordial, pas du tout second. Saint Thomas n'est pas quelqu'un qui dit oh, ça n'a pas d'importance, hein. Je donne des quantités de choses successives, l'ordre c'est secondaire. Pour saint Thomas, l'ordre est capital. Et dans la somme, je dirais, pour saint Thomas, l'ordre est d'autant plus important qu'il donne la somme pour les débutants. Et donc, donnant la somme pour les débutants, il est très attentif à l'ordre. Quand vous faites un cours pour des débutants, vous êtes très attentif à l'ordre que vous prenez, pour que ce soit plus facile. Quand vous faites un cours à des gens qui sont déjà très avancés, comme je le fais ici, hein, des gens très avancés, la question de l'ordre est beaucoup moins importante. Parce qu'on le connaît, et on veut pousser certains aspects. Tandis qu'un cours aux débutants doit être très méthodique. Mais quand vous parlez de la méthode pour enseigner, c'est toujours la question de l'ordre. Il faut commencer par ce qui est le plus proche de nous. Saint Thomas a très fort le sens, parce que pour lui, la théologie est sagesse, il a très fort le sens de l'exigence de l'ordre. Alors, regardons un tout petit peu, très rapidement, hein, parce qu'il faudrait faire un cours historique sur toutes les œuvres de saint Thomas, pour bien comprendre ce que c'est que la somme dans sa pensée. Alors je regarde trois moments, parce que je crois que c'est les principaux. Premier moment, saint Thomas, commentateur des sentences. Et c'est très important de regarder saint Thomas comme commentateur des sentences. Bachelier qui commence son enseignement. Donc il entre dans la tradition. Saint Thomas n'est pas révolutionnaire au point de départ, puisqu'il entre dans la tradition. On commente les sentences et le fait. Or, les sentences, Pierre Lombard, ont plus de 100 ans d'existence, et les sentences de Pierre Lombard ont donné à tout l'enseignement de la théologie une orientation nouvelle. Pierre Lombard, on le sait bien, n'est pas un génie. C'est un compilateur. Un compilateur pour aider les étudiants. Mais, bon, fort en peine, est un compilateur. Il donne les textes. Il les assemble comme il veut. Et quand vous regardez le début des sentences, vous voyez bien que dans les sentences, on parle tout de suite du mystère du Christ et des convenances de l'incarnation. Et saint Thomas est très conscient de ça. Il le sait, puisqu'il l'a commenté. C'est très intéressant de voir que les sentences commencent par le mystère du Christ. Mystère du Christ, mystère de la très sainte Trinité, puis mystère de Dieu dans son unité, puis la création, tout est un peu mêlé. Le rôle de saint Augustin est très important dans les sentences. Je ne dis pas du tout que c'est l'ordre de saint Augustin, c'est autre chose. C'est un ordre de compilateur. Donc, ce n'est pas un ordre de sagesse. Ne cherchez pas dans les sentences un ordre de sagesse. L'œuvre propre de saint Thomas, qui joue un rôle très important dans sa vie, ce sera le contrat gentilesse. Je crois qu'on a raison de dire que le contrat gentilesse, c'est le moment où on saisit le mieux la méditation propre de saint Thomas. Comme théologien, ne disons pas que le contrat gentilesse est une œuvre philosophique. Non. C'est une œuvre de théologien qui réfléchit sur la capacité de notre intelligence humaine, jusqu'où peut aller notre intelligence humaine. Jusqu'où l'intelligence humaine, livrée à elle-même, peut-elle découvrir le mystère de Dieu, peut découvrir une anthropologie, peut découvrir ce que c'est que le péché, ce que saint Thomas appellera les preambula fidei. Et les trois premiers livres du contrat gentilesse, c'est donc l'intelligence humaine qui cherche à aller le plus loin possible qu'elle puisse aller. Et le quatrième livre, et c'est pour ça que ce n'est pas un livre de philosophie, le quatrième livre, c'est à partir de la foi. Qu'apporte de nouveau la foi ? Et c'est très intelligent, hein ? Et c'est très nouveau. Là, on peut dire qu'il est un peu révolutionnaire, si vous voulez. Pourquoi est-il révolutionnaire là ? Parce qu'au fond, saint Thomas fait une confiance énorme à l'intelligence. Ce que tous les pères de l'Église n'ont pas toujours fait. C'est dans le contrat gentilesse, et à travers le contrat gentilesse, qu'on voit combien saint Thomas fait confiance à l'intelligence qui recherche la vérité. Si l'intelligence recherche la vérité, elle doit aller dans le sens de la révélation. On ne doit pas avoir peur de l'intelligence. On doit aller le plus loin possible dans la recherche de l'intelligence. Oui, ça c'est très beau. C'est très grand. C'est très noble. Pour saint Thomas, l'intelligence, c'est ce qu'il y a de plus noble en nous. La faculté la plus noble. Il dit ça dans la Somme. La foi va plus loin. Elle est divine. Mais parmi les valeurs humaines, l'intelligence a le prix d'excellence. La noblesse. Parce que c'est par l'intelligence que l'homme acquiert son autonomie. C'est par l'intelligence que l'homme acquiert une certaine lucidité et qu'il est capable de s'orienter. Il est capable de dominer sur tout le capital de vie qu'il a et de l'orienter. Donc, le contrat Gentilès nous montre combien saint Thomas fait confiance à l'intelligence. Si je suis attentif au contrat Gentilès, je vois l'influence énorme de la pensée aristotélicienne sur saint Thomas. C'est pas dans les sentences. Dans les sentences, saint Thomas est encore dans la tradition, c'est Avicenne, c'est saint Augustin, c'est la connaissance habituelle. Donc, si je ne regarde que le commentaire des sentences, je dirais saint Thomas est augustinien, saint Thomas est avicénien. Ça, c'est net. Tandis que dans le contrat Gentilès, ça ne peut se comprendre que sous l'influence de la philosophie aristotélicienne. Et il y a un passage qui est peut-être le passage le plus net. Il y en a deux. Les voies d'accès vis-à-vis de Dieu, où il n'hésite pas de reprendre presque textuellement Aristote dans la physique. Et puis, Aristote aussi dans le point de vue de la métaphysique. Mais le passage, pour moi, le plus éloquent, c'est lorsque saint Thomas montre qu'il y a nécessairement dans l'homme un intellect agent. Alors là, c'est extraordinaire. C'est un passage étonnant. Je voudrais que... On ne l'a pas mis assez en lumière, ça. Parce que c'est là qu'on voit le point de vue aristotélicien de saint Thomas sur l'intelligence. Vous voyez, c'est ça qu'on devrait comparer avec Hegel. L'intelligence hegelienne et l'intelligence telle que saint Thomas la donne avec Aristote, avec l'intellect agent. Regardez ce que c'est que l'intellect agent dans Hegel. Oh, c'est la pièce dominante. Pour saint Thomas, il y a deux grandes démonstrations philosophiques. La découverte de l'existence de l'être premier que toutes les traditions religieuses appellent Dieu. Et je souligne ça. Hein. Saint Thomas tout de suite a compris que je ne peux pas parler de démonstration d'existence de Dieu. C'est Descartes qui le premier dit ça. Alors quand vous parlez tout le temps de démonstration d'existence de Dieu, c'est Descartes. Saint Thomas est beaucoup plus précis. Il montre que l'intelligence humaine, par elle-même, est capable de découvrir l'existence d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Le mot Dieu relève des traditions religieuses. C'est pas le philosophe qui l'invente. C'est la même chose pour l'âme. Les traditions religieuses nous donnent deux grandes expressions, Dieu et l'âme immortelle. Et le philosophe essaie de montrer que ces deux grandes affirmations des traditions religieuses, ce n'est pas un mythe. C'est quelque chose de réel. Que Dieu existe. Que l'âme est immortelle. Vous voyez ? Donc, saint Thomas et l'âme est immortelle, vous voyez bien, grâce à l'intellect agent. Hein. C'est l'intellect agent qui est ce qui me permet de montrer l'immortalité de l'âme. Parce que l'intellect agent est séparé. Cette fameuse affirmation d'Aristote. L'intellect agent n'est pas lié au corps. Il n'y a pas d'organe sensible pour l'intellect agent. Mais aujourd'hui, on croit toujours que notre intelligence est le cerveau. On ne voit pas du tout ce que c'est que l'intellect agent. C'est complètement perdu. Pour saint Thomas, il y a les deux grandes démonstrations. Démonstration de l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu. Et puis l'autre démonstration, qui est une démonstration. Je n'ai pas l'expérience immédiate de l'intellect agent. Tâtez-vous le pouls, vous ne le trouverez pas. C'est une démonstration a posteriori. Comme pour l'existence de Dieu. Ce n'est pas une vraie démonstration. C'est pour ça que je crois, dans le langage moderne, il faut appeler plutôt découverte. Parce que quand on parle de démonstration, nous pensons toujours à des démonstrations scientifiques. Parfaites. Or, saint Thomas lui-même, à la suite d'Aristote, dit que la démonstration a posteriori est imparfaite. C'est-à-dire qu'elle ne satisfait pas pleinement notre raison. Elle satisfait notre intelligence, mais pas notre raison. Elle ne satisfait pas entièrement notre raison logique. Elle satisfait notre intelligence dans ce qu'elle a de plus profond. Très important, ça. C'est pour ça qu'il faut parler plutôt de découverte. C'est une découverte que nous faisons de l'existence d'un être premier que nous appelons Dieu. Et la découverte de ce qu'il y a de premier dans l'ordre intellectuel en nous, de ce qu'il y a de lumineux. Aristote, quand il a fait cette découverte, il dit que l'intellect agent, c'est comme la lumière. Ostophos. C'est comme la lumière. C'est très beau. Nous portons en nous une lumière. Vous voyez, tout l'illuminisme de saint Augustin, qui est une interprétation de l'intellect agent. Ça, c'est sûr. Évidemment, par Platon. C'est plus de l'aristotélisme pur. Saint Thomas dépasse l'illuminisme de saint Augustin pour reprendre cette découverte d'Aristote de l'intellect agent. Et quand vous regardez le néoplatonisme de Platon, on ne parle plus d'intellect agent. Mais bien, là, saint Thomas revient à Aristote avec force. Et il le fait, il faut bien le comprendre pourquoi, pour montrer l'autonomie de l'homme, sa liberté. Si je ne découvre pas l'intellect agent, je ne peux pas découvrir la vraie liberté de l'homme. Parce que le fondement de la liberté, c'est toujours l'intelligence. Plus vous êtes développé intellectuellement, plus vous êtes libre. Moins vous êtes développé intellectuellement, au niveau des pâquerettes et au niveau du journal. Parce qu'il y a des intelligences qui sont au niveau du journal. Il n'y a pas de liberté. Pas de liberté, ça ne pousse pas. Pas de découverte. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie, pour être plus libre. C'est important. Quand on ne comprend plus rien du tout, on se dit, allons-y. Au bout du terme, on va être plus libre. Et nous cherchons toujours la liberté aujourd'hui. Oui, saint Thomas est défenseur de la liberté. Par l'intellect agent, comme Aristote, défenseur de liberté, ce que Hegel a très bien compris. C'est pour ça qu'il aime Aristote. Là, il y a un point de contact entre les deux. Tous les deux sont défenseurs de la liberté. Tous les deux comprennent que on conquiert la liberté. L'intelligence doit se développer. On devient intelligent. Il y a en nous toutes les capacités de l'être, mais on devient intelligent à force de travailler. Et en devenant intelligent, on acquiert une liberté plus grande. Parce qu'on acquiert cette autonomie. On a une possibilité d'un regard qui va beaucoup plus loin. C'est là la grandeur, vous voyez, d'Aristote et de saint Thomas. C'est de défendre l'autonomie de l'homme cause seconde. Responsable de ses activités. Et la tristesse de notre monde d'aujourd'hui, c'est qu'on voit que petit à petit, on ne voit plus que le point de vue psychologique, et donc l'homme n'est plus responsable. Et donc on le manœuvre comme on veut. Et la télévision le manœuvre comme il veut. Les médias. Vous voyez comment, de fait, saint Thomas, dans le Contra Gentiles, nous montre combien il va loin dans son anthropologie. C'est la fine pointe. Tant qu'on n'a pas saisi ça, on ne saisit pas la manière dont saint Thomas regarde l'homme. Et le Contra Gentiles le montre. Donc voyez, le Contra Gentiles, c'est saint Thomas qui, j'allais dire, acquiert l'autonomie de son intelligence. Comme l'intelligence de saint Thomas n'est pas commune, bien qu'il soit le docteur commun, l'intelligence de saint Thomas est très pénétrante. Vous savez bien qu'on à Thomas, regarde, pourquoi Jésus aime Jean plus que Pierre? Il nous dit tout simplement, c'est parce que Jean a une perspicacité de l'intelligence plus grande. Je crois que là, saint Thomas projette sur saint Jean ce que, au fond de son cœur, il a compris. Un maître aime toujours plus des disciples intelligents. Soyons intelligents pour le Christ, et en étant intelligents pour le Christ, nous donnons un peu de joie à Jésus. Mais intelligent au sens tout à fait particulier, la perspicacité de l'intelligence. Hein. C'est pas intelligent, voyez, le robot, hein. Le raisonnement, l'ordinateur. Non, ça c'est pas intelligent. L'ordinateur, pas du tout de perspicacité de l'intelligence. Tout est nivelé. Perspicacité de l'intelligence, c'est l'intelligence de l'homme et de la personne humaine. Et c'est ça, saint Thomas. Cette perspicacité de l'intelligence. On a beaucoup trop vu saint Thomas comme logicien. Saint Thomas ne l'est pas tellement. Il l'est, parce qu'il sait que c'est nécessaire d'avoir un bon instrument. Mais c'est un instrument, pas plus. Ce qui importe dans saint Thomas, c'est le intus legere, lire de l'intérieur. Alors que les hommes regardent tout l'extérieur. Ne jugez pas selon les apparences. Et saint Thomas essaie tout le temps de lire de l'intérieur. Pour lui, c'est ça l'intelligence. Vous voyez ? Si on regardait ce qui reste en nous d'intelligence, lire de l'intérieur, est-ce qu'on est intelligent dans la vie commune? Quand vous jugez les événements de l'extérieur, comme les journalistes, vous n'êtes pas intelligent. Vous matérialisez. Lire de l'intérieur, perspicacité d'intelligence. Vous découvrez la perspicacité de l'intelligence de saint Thomas dans le contrat Gentiles. Ça, c'est très important. Parce que ça nous fait comprendre. Comment, après, troisième moment, saint Thomas va nous donner la somme théologique. La somme théologique de saint Thomas, c'est toute la perspicacité de l'intelligence de saint Thomas au service de sa foi chrétienne. Alors rentrons un peu dans ce regard de la somme, qui nous déroute. On est tous déroutés en regardant la somme. À part ceux qui ont déjà compris la somme avant de la regarder. Disait quelqu'un qui enseignait au seul choix, pour comprendre saint Thomas, il faut l'avoir compris avant de le lire. Ce qui est tout à fait vrai. In tous et tous. Autrement, vous le regardez de l'extérieur. Puisque quand vous lisez, vous regardez de l'extérieur. Tandis que si vous comprenez, vous regardez de l'intérieur. C'est la signification qui vous intéresse. C'est pas la lecture. La somme théologique de saint Thomas, c'est pour saint Thomas une œuvre de théologie scientifique. Alors comprenons bien ce que ça veut dire. Parce que pour nous, ce n'est pas habituel. Aujourd'hui, 99% des théologiens ne veulent plus de théologie scientifique. Pourquoi ? Parce que c'est trop intelligent. C'est toute notre intelligence au service de la foi. C'est très intelligent. Moi, quand j'entends critiquer saint Thomas, je leur dis, est-ce que vous avez la même foi que saint Thomas ? Il est saint. Est-ce que vous avez la même qualité d'intelligence ? Dites que vous ne comprenez pas. On a toujours le droit de le dire. Mais critiquer quelqu'un, ça veut dire qu'on le domine. Alors il faut être plus croyant et plus intelligent. Ce qui n'est pas commode. C'est une œuvre extrêmement intelligente, la somme. Et saint Thomas n'hésite pas de dire que c'est une théologie scientifique. Il ajoute tout de suite. Scientifique au sens d'une subalternation. Ce qu'on a beaucoup trop oublié. la théologie n'a pas d'autonomie. Or, la science d'habitude a son autonomie. Vous voyez ? C'est ce qui explique que quand il dit que c'est une théologie scientifique, il faut mettre tout de suite un bémol énorme. Science subalternée à la connaissance, à la science des saints. Subalternée à la science du Christ. Autrement dit, la théologie de saint Thomas, la théologie scientifique de saint Thomas, ne peut être comprise que dans un regard contemplatif. Nous sommes liés à la science des saints par la contemplation. Si nous ne contemplons pas, nous ne sommes pas liés au sens strict à la science des saints. C'est donc un regard contemplatif qui commande toute la somme. Et dans ce regard contemplatif, on essaie de préciser de la manière la plus profonde, la plus pénétrante, le mystère divin. Pour montrer que le mystère de Dieu est ce qu'il y a de plus intelligible, c'est supra. C'est éminemment intelligible et intelligent. Dieu, c'est l'être le plus intelligent qui soit. C'est l'être le plus intelligible qui soit. Dieu, c'est la lumière. Dieu, c'est l'amour. Cette lumière, je l'atteins dans une soif de contemplation. Mais je l'atteins aussi dans cette réflexion du théologien. Le contemplatif, c'est un regard que Dieu donne gratuitement. La théologie est une réflexion à partir de la contemplation. Une réflexion qui garde un mode humain, donc transmissible. Je peux transmettre la théologie. Je ne peux pas transmettre ma contemplation. La contemplation, elle est ineffable. Elle est unique. Je ne peux pas transmettre. Tandis que je peux transmettre la théologie. Pourquoi ? Parce qu'elle garde un mode humain. Un mode scientifique. Le mode scientifique, c'est ce qui est transmissible. Vous voyez, l'intuition, ça ne se transmet pas. Tandis que ce qui a été médité longuement, et méditer de la manière la plus précise, avec un mode scientifique, c'est-à-dire un mode d'analyse. La science est un mode d'analyse. Et un mode d'analyse ordonné. Le mot scientifique chez saint Thomas est rattaché à la signification de la science chez Aristote. Il ne faut surtout pas comprendre le mot scientifique chez saint Thomas à la manière des modernes. Le mot scientifique, c'est une connaissance ordonnée à partir des principes. Or, saint Thomas sait très bien que nous n'avons pas la connaissance de la nature de Dieu. Nous savons que Dieu existe, mais nous ne savons pas ce qu'il est. Le mystère échappe à notre compréhension. Il est au-delà. Mais nous savons qu'il échappe à notre compréhension parce qu'il est plus intelligible que tout le reste. Il n'est pas en dessous de l'intelligibilité, il est au-dessus. C'est pour cela que pour essayer d'expliciter cette intelligibilité de Dieu, on ne pourra le faire qu'avec un mode analogique, c'est-à-dire indirect. Et on ne pourra le faire, pour le faire le mieux possible, qu'en nous servant de ce qui, dans notre connaissance humaine, est le plus intelligible, ce qui va le plus loin, c'est-à-dire la sagesse philosophique. la sagesse philosophique devient servante de la sagesse théologique. C'est rude pour l'homme, hein, d'être théologien. Il faut qu'il accepte d'être serviteur au niveau de son intelligence. Qu'il accepte que sa sagesse philosophique soit totalement au service de sa foi. Et c'est ce que saint Thomas essaie de faire dans la soif. C'est là où on voit le serviteur. Vous voyez, comme c'est curieux. Le contra gentiles nous montre la perspicacité de l'intelligence de saint Thomas. Saint Thomas est libre dans les trois premiers livres du contra gentiles. C'est un feu d'artifice, d'intelligence, d'extraordinaire. Tandis que dans la somme, l'intelligence de Thomas d'Aquin, sa sagesse philosophique, est au service de sa foi. Ce qui nous fait comprendre pourquoi saint Thomas précise tout de suite que cette sagesse théologique, qui est science, mais science subalternée, ne nous dit pas ce qu'est Dieu, mais comment Dieu existe. Le comment. Et même saint Thomas dit, le comment, en mettant la négation avant. C'est très curieux. Vous voyez, soulignez ça, hein, parce que c'est ça qui caractérise la somme théologique de saint Thomas. Il faut souligner trois choses. Ce qu'est Dieu. Ce qu'est Dieu, nous ne pouvons pas le savoir. Nous affirmons, il existe. Ça, c'est sûr. Il existe. En latin, on dit l'ad sit. Et le quid sit. Pour moi, savoir, c'est quelques mots latins. Le quid sit, nous ne savons pas. Mais l'ad sit est là présent. La foi nous dit que Dieu existe. Bien évident. Un croyant ne doute pas de l'existence de Dieu. Et ne doute pas, en tant que croyant chrétien, d'une existence d'un Dieu trine. Il ne doute pas de ça. Il ne met jamais en doute l'existence en tant que croyant. Je dirais, en tant que philosophe qui va jusqu'au bout des exigences de son intelligence, il accepte lui aussi l'existence de Dieu. Alors, on cherche le commodo. Commodo, sit et non sit. Comment il n'est pas. Le comment il n'est pas. Vous voyez, le pourquoi et le comment. C'est peut-être plus facile pour nous. Ceux qui ont lu Auguste Comte, tout le monde a lu Auguste Comte en France, n'est-ce pas, les bons positivistes, tout le monde a lu Auguste Comte et puis c'est resté. Auguste Comte dit cette chose terrible. C'est vrai, c'est terrible. L'enterrement de première classe de la métaphysique en France, c'est Auguste Comte. En Italie, il faudrait voir. Mais dans chaque pays de l'Europe, il y a un enterrement de première classe de la métaphysique. Kant pour l'Allemagne, Auguste Comte pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, cherchez. C'est beaucoup plus tardif. C'est très intéressant de voir. Auguste Comte dit textuellement, cherchez les pourquoi, c'est une attitude d'enfant. C'est l'infantilisme. Ce sont les enfants qui cherchent le pourquoi. Quand tu es une personne raisonnable, on ne cherche plus les pourquoi. C'est l'enfant qui cherche les pourquoi. Les pourquoi métaphysiques. Le pourquoi de la finalité. C'est une attitude d'enfant. L'homme scientifique cherche le comment. Il cherche le comment. Et dans le monde d'aujourd'hui, on dirait que l'homme critique cherche le comment, ça n'est pas. La négation est antérieure. Oui, comme c'est curieux de voir que ce qui est vrai pour la théologie, c'est laïcisé dans la recherche moderne. Le positivisme, c'est ne chercher plus que le comment. Et le positivisme, le néo-positivisme, c'est chercher d'abord comment ça n'est pas. La négation est première. C'est exactement ce que saint Thomas dit, avec la seule différence que tout ça est porté dans la foi. Tandis dans le néo-positivisme, la foi est barrée, tandis que c'est l'intelligence. Je crois que ça fait comprendre comment la théologie mûrit l'intelligence. Et qu'il faut accepter d'être dépendant de Dieu et de la révélation. Et c'est vrai, je te rends grâce d'avoir révélé ces choses aux petits et non pas aux sages et aux prudents. Il faut être très petit pour accepter de ne chercher que le quomodo non sit, le comment ça n'est pas. C'est très important pour nous de comprendre la structure intellectuel de la somme théologique de saint Thomas. Et pour ça, il faut comprendre. Dieu existe. Je ne sais pas ce qu'il est. Je cherche comment il n'est pas. Et ce comment il n'est pas peut être accepté si j'accepte que ma recherche est toujours portée par un regard contemplatif. Si ma recherche n'est plus portée par un regard contemplatif de foi, j'abandonnerai cela, je rejetterai cela et je reviendrai à une théologie biblique, uniquement la parole de Dieu. Et je ne chercherai plus à comprendre. Vous voyez, ça s'est fait avec Luther et maintenant ça se généralise. Il n'y a plus que la théologie biblique. Il n'y a plus qu'une théologie de l'histoire. Il n'y a plus de théologie scientifique. Ou très peu, si vous voulez. Quelques organes témoins d'un âge révolu. C'est très important, ça. Bon, une fois que j'ai saisi ça, l'ordre que prend saint Thomas dans la Somme, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'abord, le mystère de Dieu. C'est très audacieux de faire ça. Et même avant de se poser, est-ce que Dieu existe? Les voies d'accès par rapport à Dieu. Le Ansis, est-ce que Dieu existe? Saint Thomas se pose la question, en tant que théologien, est-ce que Dieu existe? Est-ce que pour mon intelligence humaine, l'affirmation de Dieu existe a un poids d'intelligibilité? Est-ce que des gens intelligents peuvent affirmer que Dieu existe? Mais comme c'est actuel. Est-ce qu'un mono peut affirmer que Dieu existe? Est-ce que quelqu'un qui toute sa vie a cherché l'évolution, est-ce qu'il peut affirmer que Dieu existe? Est-ce que, pour affirmer que Dieu existe, on peut rester intelligent? C'est ça la grande question pour saint Thomas. C'est pour ça que cette question, est-ce que Dieu existe, qui est la question 2 dans la Somme, est capitale. Elle est très difficile, mais elle est capitale. Et c'est la question du théologien qui affirme l'existence de Dieu, puisqu'il est croyant, Dieu existe. Et qui affirme que l'intelligence humaine existe, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu. Et il regarde le rapport qui existe entre les deux. Est-ce qu'il y a un lien réel de connaissance philosophique, métaphysique, entre l'affirmation « Dieu existe » et la recherche intellectuelle? si mon intelligence ne peut pas par elle-même affirmer que Dieu existe, il ne peut plus y avoir de théologie scientifique. C'est pour ça que cette question, au début de la somme, c'est une question critique, où saint Thomas veut saisir la force de l'instrument dont il va se servir. L'instrument dont il va se servir, c'est l'intelligence humaine, dans la lumière de la foi. Est-ce que l'intelligence humaine peut coopérer avec la foi? Est-ce que l'intelligence humaine peut coopérer avec la foi? Ou au contraire, si chaque fois que l'intelligence humaine coopère avec la foi, elle réalise un monstre? Karl Barth dit textuellement que l'analogie, c'est le diable. Et donc, chaque fois que l'intelligence humaine coopère avec la foi, il y a un monstre. La théologie de saint Thomas, c'est monstrueux. C'est un monstre. Pourquoi? Parce que l'intelligence humaine ne peut pas, par elle-même, atteindre l'existence de Dieu. Donc, seule la foi. Et malgré ça, il fait une énorme théologie dogmatique. Donc, ça prouve que si vous chassez l'intelligence, la raison revient au galop. Ça, c'est tout le temps comme ça. N'oublions pas que petit-fils de Luther, Hegel, dit que toute sa philosophie, c'est une théologie. Plus besoin de la foi. C'est très important, vous voyez. Et dans notre monde d'aujourd'hui, tous ces problèmes se reposent avec une acuité et une force comme ça ne s'est jamais posé. Je crois que nous vivons cela. C'est pour ça que ce n'est pas du tout déterrer les morts. C'est d'essayer de comprendre, est-ce que notre intelligence humaine peut coopérer avec la foi? Je dis bien intelligence, pas la raison. Je ne dirais pas, est-ce que la logique peut coopérer avec la foi? Non, l'intelligence. La logique viendra ensuite. Mais l'intelligence, c'est quand même une question importante. Quand vous lisez la Bible, quand vous lisez l'Évangile, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, est-ce que vous devez être intelligent? Ou est-ce qu'il faut être bête? C'est le croyant, moi je sens comme un croyant. Peu importe, je ne comprends rien du tout, ça m'est égal. C'est la foi, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ça me dépasse complètement. Je n'ai pas besoin de comprendre. Ou bien je demande comme intelligence uniquement les études exégétiques. Qui ne pénètrent pas la signification ultime de la parole de Dieu. C'est quand même très important, vous voyez. C'est notre vie de chrétien. Et l'option de saint Thomas est une option d'une netteté et d'une profondeur telle que l'Église a dit que c'est le docteur commun. Et si saint Thomas, si l'Église dit que c'est le docteur commun, l'Église nous dit que c'est donné à tous les croyants. L'Église n'a jamais dit ça à l'égard de Don Scott, à l'égard de Occam. On a dit le docteur subtil. Donc c'est pour une élite subtile. Docteur commun, c'est pour tous les croyants. Mais l'Église demande que les croyants soient intelligents. Vous voyez, c'est important de comprendre ça. Donc, théologie scientifique, on cherche la plus grande intelligibilité du mystère de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. On croit que la révélation est suprêmement intelligente, parce que c'est la lumière de Dieu sur nous. La foi, même si elle me fait vivre dans les ténèbres et l'obscurité, la foi me donne une lumière divine qui dépasse toutes les lumières. La foi me donne une certitude qui dépasse toutes les certitudes. La certitude de la foi dépasse toutes les certitudes scientifiques, mathématiques, métaphysiques. Toutes. Et par le fait même, la parole de Dieu possède une intelligibilité plus grande que tout. Et c'est pour ça que je mets au service de ma foi ce qui en moi est le plus profondément intelligent, ma sagesse métaphysique. Alors, on prendra donc un ordre intelligible, un ordre d'intelligibilité, puisque c'est une science. Tu es lumière. Et la Bible, la révélation, c'est un enseignement. Et je me mets disciple de Dieu. Je me mets à la haute école de Dieu qui m'enseigne. Et je cherche la plus grande intelligibilité du mystère du Christ, qui est au sommet de la révélation. Et parce que justement c'est au sommet de la révélation, je vais commencer par ce qui pour moi est le plus intelligible. Qu'est-ce qui pour moi est le plus intelligible ? C'est l'existence de Dieu et la manière dont Dieu existe dans son unité. Puis je regarderai le mystère de la très sainte Trinité. Puis je regarderai la création. C'est ce qu'il y a de plus intelligible pour moi. Puis je regarderai la manière dont l'homme peut remonter vers Dieu, à l'image de Dieu. Toute l'anthropologie de l'image de Dieu. Toute l'anthropologie de l'homme créé à la ressemblance de Dieu. Et je viendrai qu'en troisième lieu, au mystère du Christ. Cela ne veut pas dire du tout que dans la foi, le mystère du Christ est premier. Et ça veut dire qu'au point de vue de la recherche scientifique, donc de l'intelligibilité la plus grande que je peux avoir, le Christ arrive au sommet. Je ne peux pas saisir cette grande affirmation que l'Église nous donne. Le Verbe devenu chair. Le Verbe qui assume la nature humaine. Vous comprenez bien cette affirmation, qui est l'affirmation la plus nette que l'Église nous donne. Le Verbe assume la nature humaine. Je ne peux pas comprendre cela. Le plus que je peux comprendre, si je n'ai aucune intelligence du Verbe, si je n'ai aucune intelligence de la nature humaine. Le mystère du Verbe incarné présuppose la foi dans le Verbe et l'adhésion à la bonté de la nature humaine. Et la nature humaine comme image de Dieu. C'est ce que je vous disais hier. Donc la théologie du Verbe incarné présuppose la théologie du Verbe et la théologie de la nature humaine. Ça, je crois qu'on peut le comprendre tout de suite. Une réalité complexe ne peut être intelligible, scientifiquement parlant, que si je connais les éléments. Or, dans l'affirmation « le Verbe assume la nature humaine », il y a deux. Il faut donc connaître le plus que je peux le mystère du Verbe et connaître le plus que je peux le mystère de la nature humaine. C'est pour cela que saint Thomas nous donne en troisième partie le mystère du Verbe incarné. Seconde raison, c'est que la nature humaine est blessée par le péché. Et la nature humaine blessée par le péché demande d'être sauvée. Et le sauveur de la nature humaine blessée par le péché ne peut être que Dieu incarné. Dieu aurait pu sauver autrement, mais de fait, il a voulu que ce soit le Christ, le Verbe incarné, notre sauveur. Donc, là encore, pour pour connaître le mystère de la rédemption de Jésus Sauveur, il faut connaître le mystère du péché.